On va commencer avec ce chiffre impressionnant, 80 ans. L'ONU a célébré cet anniversaire, mais la fête avait un goût amer, tu ne trouves pas? Entre l'Ukraine, Gaza ou encore le Venezuela, on se demande si l'organisation n'est pas en bout de course.
Il y a clairement une lassitude qui plane. Beaucoup de gens questionnent aujourd'hui le rôle réel de l'ONU, surtout quand les conflits s'enchaînent sans véritable solution. Mais ça me fascine toujours de voir combien cette institution reste, malgré tout, une référence mondiale.
C'est vrai qu'elle garde une aura, même si son efficacité est remise en cause. Et puis la question, c'est comment l'ONU en est arrivée là à être vue comme impuissante sur certaines crises majeures.
Quand tu regardes de près, le Conseil de sécurité, c'est un peu le cœur du problème. Les fameux P5, Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis ont un droit de veto qui bloque tout. On l'a vu récemment avec la Russie sur l'Ukraine ou les États-Unis sur Gaza.
Ce mécanisme, il avait été pensé pour assurer la paix, mais il agit plutôt comme un frein dès qu'un des grands est concerné. On croirait presque à une immunité taillée sur mesure pour les puissants.
D'ailleurs, ce droit de veto n'est encadré par aucune limite réelle. Les membres permanents peuvent l'utiliser autant qu'ils veulent, même de façon purement intéressée.
Et c'est là tout le paradoxe. La paix mondiale est censée dépendre d'un compromis entre ces cinq-là. Mais que faire quand ils ne veulent pas de compromis?
Certains militent pour une réforme du droit de veto, mais honnêtement, c'est quasi mission impossible. Comme la charte le prévoit, il faudrait que les P5 acceptent eux-mêmes de perdre du pouvoir. C'est comme demander à un chat de devenir végétarien.
Le blocage est total. Ceux qui pourraient changer les règles sont justement ceux qui profitent du système. Tu imagines un seul instant la Chine ou les États-Unis voter pour perdre leur super pouvoir au Conseil?
Pas vraiment. Et même s'il existe sur le papier des articles qui permettent la réforme, en réalité, personne ne veut lâcher son avantage. Résultat, le système reste figé, même face à des crises monstrueuses.
Mais alors, on fait quoi? On attend la prochaine catastrophe pour que ça bouge enfin?
C'est que le Conseil de sécurité ne peut rien faire si un membre du P5 est impliqué comme agresseur. L'Ukraine en est un exemple frappant. Impossible de sanctionner la Russie parce qu'elle a le bouton magique du veto.
Et ce n'est pas la première fois. On a déjà vu des situations où les États-Unis ou la Chine bloquaient toute résolution gênante. Ça donne presque l'impression d'un club privé qui protège ses membres coûte que coûte.
C'est qu'on parle toujours du Conseil alors que l'ONU, c'est bien plus vaste. Certains oublient tout le boulot qu'elle fait discrètement ailleurs.
On n'en parle pas assez, mais le secrétariat, le Conseil des droits de l'homme, toutes les agences humanitaires, l'ONU, ce n'est pas juste des débats stériles à New York. Chaque jour, elle coordonne des secours, mène des négociations, surveille les droits humains.
C'est ça qui me rend un peu optimiste, malgré tout. Par exemple, l'OMS ou le Programme alimentaire mondial, ils apportent une aide réelle sur le terrain, souvent dans l'ombre. Aucun État ne pourrait répondre seul à toutes ces crises humanitaires.
Et puis il y a l'aspect santé, climat, développement. On oublie souvent que l'ONU, c'est aussi un réseau d'experts et de diplomates qui agissent bien au-delà des projecteurs du Conseil de sécurité.
Certains rêvent carrément d'une nouvelle organisation mondiale, mais franchement, qui pourrait se mettre d'accord là, dessus aujourd'hui? Il faudrait un esprit de coopération globale qui n'existe pas.
J'imagine mal les États accepter de tout remettre à plat, surtout avec la défiance actuelle. Mais à l'inverse, ça semble dangereux de jeter l'ONU aux orties, vu tout ce qui fonctionne encore.
Je partage ce dilemme. D'un côté, le système est très imparfait, frustrant même. De l'autre, sans cette institution, on aurait probablement des crises humanitaires et des conflits encore moins gérés. C'est un peu choisir entre la peste et le choléra.
Finalement, la question c'est, vaut-il mieux avoir une ONU défaillante mais existante ou pas d'ONU du tout? On en revient toujours à ce choix impossible.
J'ai du mal à imaginer le monde sans une structure internationale, même aussi imparfaite. Sans l'ONU qui organiserait les grandes conférences, les négociations, la réponse humanitaire coordonnée.
Et puis, même si le Conseil de sécurité est paralysé, il reste, tout un appareil qui continue d'avancer. Ce n'est pas rien.
On devrait peu être arrêté d'attendre des miracles d'une institution bâtie sur des compromis. Au fond, la meilleure chose, c'est sûrement de défendre ce qui fonctionne tout en cherchant à réparer ou à réinventer le reste.
Ça me fait penser à une question essentielle. Comment pousser à la réforme sans saboter tout le système? Est-ce qu'on peut encore espérer un Conseil de sécurité plus responsable?
C'est le défi du siècle. Il faudrait trouver une manière de limiter l'arbitraire des puissances sans que tout s'effondre. Cela passe peut être par la pression internationale ou par des coalitions d'États plus modestes qui imposent des alternatives.
Et en attendant, reconnaître les réussites de l'ONU là où elle est utile, tout en critiquant durement ce qui ne va pas. C'est sans doute le seul chemin réaliste pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Je crois qu'on tient là une vraie leçon de résilience institutionnelle. L'ONU, c'est imparfait, frustrant, mais on en a encore besoin. La question, c'est comment la rendre meilleure et pas seulement comment la remplacer.